Plus que toute autre considération en lien avec la campagne, ce sont les nouvelles en provenance de Hawaï qui ont assombri mon humeur en ces derniers jours d'octobre. Maya m'avait appelé. D'après les médecins, toute n'en avait plus pour très longtemps, une semaine peut-être. Elle ne bougeait désormais plus de son lit médicalisé installé dans le salon de son appartement, sous la surveillance d'une infirmière qui lui administrait des soins palliatifs. Même si la veille encore, elle avait surpris ma sœur par un élan soudain de lucidité, demandant les dernières nouvelles de la campagne ainsi qu'un verre de vin et une cigarette, elle était de moins en moins souvent consciente. Alors, 12 jours avant l'élection, j'ai passé une journée et demie à Honolulu pour lui faire mes adieux. Maya m'attendait dans l'appartement. Je l'ai trouvée assise sur le canapé avec des boîtes à chaussures remplies de vieilles photos et cartes postales. « J'ai pensé que tu voudrais en garder quelques-unes », m'a-t-elle dit. J'ai pris une pile de photos posées sur la table basse. Mes grands-parents et ma mère à 8 ans, en train de rire dans un champ verdoyant du parc de Yosemite. Moi, à 4 ou 5 ans, juché sur les épaules de Gramps au milieu des vagues. Tous les quatre avec Maya, encore bébé, souriant devant un sapin de Noël. J'ai rapproché une chaise du lit et j'ai pris la main de ma grand-mère. Elle était amaigrie et elle avait du mal à respirer. De temps en temps, elle était secouée par une violente quinte de toux dont le son métallique évoquait le grincement d'un engrenage. Elle a laissé échapper 2 ou 3 murmures, mais ces mots, si du moins elle en avait prononcé, m'ont échappé. À quoi pouvait-elle rêver? Je me demandais si elle avait pu se retourner sur son passé, faire le bilan de sa vie, ou si c'était le genre de choses qu'elle aurait jugées trop complaisantes. Je voulais le croire pourtant. Je voulais croire qu'elle avait trouvé le réconfort dans le souvenir d'un amoureux de jadis, ou d'un jour ensoleillé de sa jeunesse où la fortune lui avait souri et où le monde s'était soudain révélé à elle dans toute son immensité pleine de promesses. J'ai repensé à la conversation que nous avions eue un jour, quand j'étais au lycée, à l'époque où ses problèmes chroniques de dos avaient commencé à l'empêcher de marcher pendant trop longtemps. « Tu vois, Bert, » m'avait dit toute, « le problème quand on devient vieux, c'est qu'on est toujours la même personne à l'intérieur. » Je me souviens de ses yeux qui me fixaient derrière ses épaisses lunettes à double foyer, comme pour s'assurer que je l'écoutais attentivement. « Tu es coincé dans ce fichu corps qui commence à partir en lambeaux, mais c'est toujours toi, tu comprends ?» Aujourd'hui, je comprenais. Je suis resté 1 heure environ à discuter avec Maya, de son travail, de sa famille, tout en caressant la main sèche et décharnée de toutes. Mais, au bout d'un moment, j'ai eu la sensation que cette pièce était envahie par trop de souvenirs, qui se heurtaient, se mélangeaient, se reflétaient comme les images d'un kaléidoscope. Et j'ai dit à Maya que j'avais envie d'aller prendre un peu l'air. Après concertation avec Gibbs et les agents du Secret Service chargés de ma sécurité, nous sommes convenus de ne pas informer les journalistes qui faisaient le pied de grue en bas. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au sous-sol et je suis sorti par le garage. Puis je me suis engouffré dans l'étroite ruelle qui longeait l'immeuble de mes grands-parents. La rue n'avait presque pas changé en 35 ans. Je suis passé derrière un petit temple et centre communautaire Shinto, puis devant un alignement de maisons en bois interrompu de temps en temps par un immeuble en béton de 2 étages. C'était là, dans cette rue, que j'avais fait rebondir mon premier ballon de basket, cadeau de mon père pour mes 10 ans. Dribblant tout le long du chemin sur les pavés inégaux, jusqu'au terrain qui jouxtait l'école élémentaire. Toute racontait qu'elle savait toujours quand j'étais sur le point d'arriver à la maison pour dîner, parce qu'elle entendait monter jusqu'à son 9e étage le bruit de ce fichu ballon. C'était cette rue que je dévalais pour aller lui acheter ses cigarettes à l'épicerie, motivé par sa promesse de me laisser m'acheter une friandise avec la monnaie si j'étais de retour en moins de 10 minutes. Plus tard, à 15 ans, c'est cette rue que j'avais remontée pour rentrer à la maison après avoir passé la journée à vendre des glaces au Baskin Robbins du coin, mon premier job. Toutes avaient éclaté de rire en m'entendant ronchonner à cause du montant dérisoire de mon salaire. C'était un autre temps, une autre vie, modeste et sans conséquences pour le reste du monde. Mais une vie qui m'avait procuré de l'amour. Quand toutes ne seraient plus là, plus personne ne se souviendrait de cette vie ou de moi à cette époque. J'ai entendu des bruits de cavalcade derrière moi. Les journalistes, j'ignore comment, avaient eu vent de ma petite escapade et se regroupaient sur le trottoir de l'autre côté de la rue, les photographes jouant des coudes pour installer leurs appareils, les reporters, micro au poing, me regardant d'un air bizarre, hésitant manifestement à me lancer une question. Je les ai salués d'un petit geste de la main, puis j'ai fait demi-tour vers le garage. Ça n'aurait servi à rien d'aller plus loin. J'avais compris que ce que je cherchais n'existait plus depuis longtemps. J'ai quitté Hawaï et je me suis remis au travail. 8 jours plus tard, la veille de l'élection, Maya m'a appelé pour me dire que toute était morte. C'était le dernier jour de la campagne. Nous devions nous rendre en Caroline du Nord ce soir-là, avant de nous envoler pour la Virginie, où se déroulerait notre tout dernier meeting. Avant que nous nous mettions en route, Axe m'a gentiment demandé si je voulais qu'il m'aide à écrire un petit préambule à mon discours de campagne habituel pour rendre hommage à ma grand-mère. Je lui ai répondu « merci, mais non ». Je savais ce que je voulais dire. C'était une belle soirée. Il faisait frais et il pleuvait légèrement. Debout sur l'estrade en plein air, après que la musique, les applaudissements et les cris scandés sont retombés, j'ai parlé de tout à la foule pendant quelques minutes. Son enfance durant la Grande Dépression, la chaîne de montage sur laquelle elle avait travaillé pendant que Gramps était à la guerre, ce qu'elle représentait pour notre famille, ce qu'elle pouvait représenter pour eux. Elle faisait partie de ces héros discrets qui existent partout en Amérique, ai-je dit. Ils ne sont pas célèbres, leur nom n'apparaît pas dans les journaux, mais chaque jour, jour après jour, ils travaillent dur. Ils veillent sur leur famille, ils se sacrifient pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils ne cherchent pas à attirer la lumière sur eux. Ils s'efforcent simplement de faire ce qui est juste. Et ce soir, dans cette foule, ces héros discrets sont nombreux. Mères, pères, grands-parents, qui tous ont travaillé, qui tous ont passé leur vie à se sacrifier. Et leur récompense est la satisfaction de voir leurs enfants et leurs petits-enfants, et peut-être même leurs arrière-petits-enfants, avoir une vie meilleure que celle qu'ils ont eue. Voilà ce que veut dire l'Amérique. Voilà ce pourquoi nous nous battons. Il m'a semblé que je n'aurais pas pu trouver de meilleurs arguments pour conclure la campagne. Quand vous êtes dans la peau du candidat, le jour de l'élection est un jour étonnamment calme. Plus de meetings, plus de débats publics. Les spots télé et radio n'ont plus aucune importance. Les chaînes d'information n'ont plus rien de consistant à se mettre sous la dent. Les QG de campagne se vident. Tous les membres du staff et les bénévoles sortent dans la rue pour motiver les électeurs à se rendre dans les bureaux de vote. D'un bout à l'autre du pays, des millions d'inconnus se glissent derrière un rideau noir pour exprimer leur choix politique, laisser parler leur instinct profond et, ainsi, par une mystérieuse alchimie collective, déterminer le destin du pays et le vôtre. Vous prenez conscience de quelque chose d'aussi profond qu'évident. Tout cela ne vous appartient plus. Il ne vous reste en somme qu'une seule chose à faire, attendre. Cette impuissance rendait fous Axe et Plauf, qui tuaient le temps en consultant leur BlackBerry à l'affût des moindres nouvelles, les échos à la sortie des urnes, les rumeurs, la météo, tout ce qui pouvait servir de données concrètes et utiles. J'ai pris le parti opposé, m'abandonnant à l'incertitude comme on s'allonge sur le dos pour se laisser porter par les vagues. J'ai tout de même passé quelques coups de fil ce matin-là, pour intervenir à l'antenne de plusieurs matinales, surtout des radios de la communauté noire, pour rappeler aux gens d'aller voter. Vers 7h30, Michel et moi sommes allés glisser notre bulletin dans l'urne à l'école élémentaire Beulah Shoesmith, dans le quartier de Hyde Park, à quelques pas de chez nous, accompagnés de Malia et Sacha qui sont ensuite partis à l'école. Puis j'ai fait un rapide aller-retour à Indianapolis pour rendre visite aux équipes d'un bureau local de la campagne et serrer quelques mains. Plus tard, j'ai joué au basket, une habitude que Reggie et moi avions développée par superstition parce que nous avions joué ensemble le matin de notre victoire au caucus de l'Iowa, mais pas le jour de notre défaite à la primaire du New Hampshire. Avec Craig, le frère de Michel, quelques vieux copains et une bande de gamins, des enfants d'amis, assez rapides et costauds pour nous faire piquer une bonne suée. Nous ne nous faisions pas de cadeaux et les jurons volaient dans tous les sens, même si j'ai remarqué que tout le monde veillait à ne pas trop se bousculer. J'ai appris par la suite que Craig avait donné pour consigne d'y aller doucement. Il savait que sa sœur le tiendrait pour responsable si jamais je rentrais à la maison avec un œil au beurre noir. Pendant ce temps-là, Gibbs guettait les nouvelles en provenance des États décisifs. Apparemment, la participation explosait tous les records un peu partout dans le pays, ce qui créait des problèmes dans certains bureaux de vote où les électeurs devaient faire la queue pendant 4 ou 5 heures avant de pouvoir accéder aux urnes. Mais d'après les images filmées sur place, nous a dit Gibbs, les gens avaient l'air plus joyeux que frustrés. Les personnes âgées s'asseyaient sur des fauteuils pliants et les bénévoles distribuaient des boissons rafraîchissantes, comme à une grande fête de voisinage. J'ai passé le reste de l'après-midi chez moi à tourner en rond, désœuvré, pendant que Michel et les filles se faisaient coiffer. Je suis allé m'enfermer dans mon bureau pour mettre la dernière main à mes deux discours, l'un en cas de victoire, l'autre en cas de défaite. Vers 20h, Axe m'a appelé pour m'annoncer que les chaînes d'information nous donnaient vainqueurs en Pennsylvanie, et Marvin a suggéré que nous commencions à nous diriger vers l'hôtel en centre-ville, d'où nous regarderions les résultats tomber avant de nous rendre à Grand Park, où aurait lieu le grand rassemblement public en fin de soirée. Devant notre maison, le nombre d'agents et de véhicules du Secret Service semblait avoir doublé en l'espace de quelques heures. Le chef de l'équipe chargé de ma sécurité, Jeff Gilbert, m'a serré la main et m'a donné une brève accolade. Il faisait une chaleur inhabituelle à Chicago pour cette époque de l'année, pas loin de 20 degrés. Et dans la voiture, sur Lakeshore Drive, Michel et moi regardions le lac Michigan derrière la vitre, sans rien dire, tandis que les filles chahutaient à l'arrière. Tout à coup, Malia s'est tournée vers moi et m'a demandé « Papa, tu as gagné ?»« Oui, ma chérie, je crois. » « Et on est censé aller à la grande fête tout à l'heure ?»«
Oui, c'est ça, pourquoi ?»«
Ben, c'est juste que j'ai l'impression qu'il n'y aura pas grand monde à la fête, vu qu'il n'y a aucune voiture sur la route. » J'ai ri et je me suis aperçu que ma fille avait raison. Hormis notre cortège, les 6 voies dans les 2 sens de la route étaient complètement désertes. À l'hôtel aussi, la sécurité n'était plus la même. Des unités de la brigade spéciale d'intervention s'étaient déployées dans les cages d'escalier. Notre famille et nos plus proches amis étaient déjà installés dans la suite. Tout le monde souriait, les enfants couraient partout, et pourtant il régnait une atmosphère étrangement flottante, comme si la réalité de ce qui était sur le point d'arriver n'avait pas encore tout à fait pénétré les esprits. Ma belle-mère en particulier ne faisait pas semblant d'être détendue. Au milieu de toute cette agitation et de tout ce bruit, je l'ai vue assise sur le canapé, les yeux rivés sur l'écran de télévision, l'air incrédule. J'ai essayé d'imaginer ce qu'elle pouvait ressentir. Elle, qui avait grandi à quelques kilomètres d'ici, à une époque où il y avait encore beaucoup de quartiers à Chicago dans lesquels un noir ne pouvait même pas mettre les pieds sans risquer sa peau. Une époque où les noirs n'avaient quasiment aucune chance de trouver un emploi de bureau et où son père, ne pouvant pas adhérer au syndicat contrôlé par les blancs, avait dû gagner sa vie comme ouvrier itinérant. Une époque où l'idée d'un président américain noir était à peu près aussi extravagante que l'idée d'une poule avec des dents. Je me suis assis à côté d'elle sur le canapé. « Ça va ?» lui ai-je demandé. Marianne a haussé les épaules, incapable de détacher les yeux de la télé. Elle a dit « Je ne sais pas, c'est presque trop. » « Je sais. » J'ai pris sa main et je l'ai serrée dans la mienne. Et nous sommes restés assis côte à côte dans un silence complice pendant quelques minutes. Et puis, tout à coup, mon visage a surgi en gros plan à l'écran et ABC News a annoncé que j'allais devenir le 44e président des États-Unis. Tout le monde a explosé de joie. On entendait crier partout dans les couloirs de l'hôtel. Michel et moi nous sommes embrassés, puis elle s'est dégagée doucement pour me dévisager en riant et en secouant la tête. Reggie et Marvin se sont rués pour serrer tout le monde dans leurs bras. Plouf, Axe et Gibbs ont bientôt surgi dans la pièce et je les ai patiemment laissés me débiter les résultats état par état pendant 2 ou 3 minutes, avant de leur dire ce qui, je le savais, était la pure vérité. Quoi que j'ai pu accomplir pour ma part, c'était eux, leur talent, leur travail acharné, leur perspicacité, leur ténacité, leur loyauté et leur générosité, ainsi que le dévouement de toute l'équipe, qui avaient rendu ce moment possible. Le reste de la soirée n'est pour ainsi dire qu'un grand flou dans ma mémoire. Je me souviens du coup de fil de John McCain, aussi élégant que le serait le discours qu'il prononcerait pour concéder sa défaite. Il m'a dit que l'Amérique pouvait être fière de ce moment historique et il s'est engagé à faire tout son possible pour m'aider à réussir. J'ai reçu des appels de félicitations du président Bush et de plusieurs dirigeants étrangers et j'ai parlé avec Harry Reid et Nancy Pelosi. Pour eux aussi, la soirée était belle, avec le succès de nombreux démocrates du Sénat et de la Chambre des représentants dans les élections secondaires. Je me rappelle avoir fait la connaissance de la mère de Joe Biden, qui, du haut de ses 91 ans, a pris un malin plaisir à me raconter qu'elle avait grondé son petit Joe d'avoir pu envisager même un seul instant de refuser d'être mon colistier. Plus de 200 000 personnes s'étaient rassemblées à Grand Park ce soir-là, au pied de la Seine, installées face au gratte-ciel étincelant de Chicago. Je revois aujourd'hui encore certains de ces regards qui se sont levés vers moi quand je suis arrivé. Tous ces hommes, ces femmes, ces enfants de toutes les origines, certains riches, d'autres pauvres, certains célèbres, d'autres anonymes, les visages illuminés d'un sourire extatique, les visages baignés de larmes qui ne se cachaient pas. J'ai relu des passages du discours que j'ai prononcé ce soir-là, et certains de mes proches et des membres de mon staff m'ont raconté ce qu'ils avaient ressenti. Mais je crains que mes souvenirs de cette soirée, comme de tant d'autres événements depuis ces 12 dernières années, ne soient voilés par les images que j'ai vues, la séquence où l'on nous voit traverser la Seine en famille, Les photos des gens dans la foule, des lumières et du décor somptueux en arrière-fond. Si magnifiques soient-elles, ces images ne rendent pas nécessairement justice à l'intensité de l'expérience vécue sur le moment. La photo que je préfère de cette soirée, d'ailleurs, n'a pas du tout été prise à Grand Park. On me l'a offerte en cadeau des années plus tard. C'est une photo du mémorial de Lincoln, à Washington, prise lorsque je prononçais mon discours à Chicago. On y voit un petit groupe de gens assis sur les marches du monument, la tête plongée dans l'obscurité, et derrière eux, la gigantesque statue éclairée de 1000 feux, son visage de marbre buriné, ses yeux légèrement baissés. « Ils sont en train d'écouter la radio, me dit-on, et de songer en silence à ce que nous sommes, au peuple que nous formons, et à la trajectoire de cette chose que nous appelons la démocratie. »